Chapitre 4. Nous trouvons dans les premiers versets la réponse à l'offre de Dieu au peuple faite par Pierre, réponse donnée par les chefs de la nation. L'offre était basée sur la résurrection du Seigneur Jésus, ce qui la rendait particulièrement offensante pour les Sadducéens et pour les sacrificateurs qui étaient de ce parti. Et ils la rejettent de la manière la plus absolue en faisant arrêter les apôtres. Mais l'œuvre de Dieu se poursuit par un nombre croissant de conversions, comme l'indique le verset 4. Et le lendemain, lorsque Pierre comparaît devant le Sanhédrin, c'est pour lui une nouvelle occasion de rendre témoignage en répondant aux questions qui lui sont posées au sujet de la puissance et du nom par lesquels il avait agi. Le nom et la puissance étaient ceux de Jésus-Christ le Nazaréen qu'ils avaient crucifié et que Dieu avait glorifié. En lui, le verset 22 du psaume 118 avait eu son accomplissement et Pierre va élargir son témoignage en partant d'un cas particulier pour aller au cas général. La puissance du nom était manifeste devant leurs yeux dans le cas particulier de l'homme boiteux qui avait été guéri. Elle était la même pour le salut des hommes en général. La guérison physique de l'homme n'était qu'un signe de la guérison spirituelle que le nom de Jésus apporte. Jésus de Nazareth, le méprisé, est la seule porte du salut. Les versets 13 à 22 montrent de la manière la plus frappante combien le témoignage de Pierre était justifié. Selon les normes du monde, les apôtres étaient des hommes illettrés et du commun, mais ils avaient été avec Jésus et ils avaient de la hardiesse, et cela impressionne les membres du Sanhédrin qui étaient prêts à les condamner. Trois éléments les en empêchent. Premièrement, ils n'avaient rien à opposer, verset 14. Deuxièmement, ils doivent confesser, nous ne pouvons le nier, verset 16. Troisièmement, ils ne trouvent pas comment ils pourraient les punir, verset 21. Lorsque les hommes veulent discréditer une chose quelconque, ils cherchent en général d'abord à la nier si c'est possible. Sinon, ils trouvent un moyen ou un autre de la critiquer, de la dénaturer au besoin. Enfin, si cela ne réussit pas, ils s'en prennent aux personnes impliquées. Ils les noircissent et les punissent. Le Sanhédrin a recouru à ces trois moyens bien connus, qui ont cependant tous échoué, parce que ces hommes combattaient contre Dieu. Ils ne peuvent que menacer les apôtres et leur enjoindre de ne plus proclamer le nom de Jésus. Pierre rejette leur ordre. Dieu ne leur avait-il pas commandé de prêcher au nom de Jésus ? C'est lui l'autorité suprême, à qui ils devaient obéir plutôt qu'à eux. Nous avons ensuite, dans les versets 23 à 27, une belle image de l'Église primitive à Jérusalem. Relâchés par le Sanhédrin, les apôtres vont vers les leurs. Nous voyons par là que l'Église, à l'origine, était une compagnie distincte et séparée du monde, y compris du monde religieux du judaïsme. Ce point mérite une mention toute spéciale à une époque où le monde et l'Église sont tellement mélangés. L'Église primitive trouve sa ressource dans la prière. Au milieu des circonstances difficiles, elle se tourne vers Dieu et non pas vers les hommes. Elle aurait pu demander à un Sanhédrin moins dominé par les Sadducéens, plus libéral et plus ouvert, mais les croyants ne se sont pas agités pour l'obtenir. Ils ont simplement recherché la face de Dieu, le souverain des hommes. Dans leur prière, ils sont ramenés à la parole de Dieu. Le psaume 2 répand sa lumière sur leur situation. L'interprétation de ce psaume indique qu'il est pour les derniers jours, mais ils en retirent l'application pour leur époque. L'Église primitive était caractérisée par la soumission à la parole. Elle trouvait dans cette parole toute la lumière et toutes les directions dont elle avait besoin. C'est là aussi un point très important et instructif. Ces croyants du commencement étaient encore caractérisés par un souci beaucoup plus grand pour la gloire du nom de Jésus que pour leur aise et pour leur confort. Ils demandent non pas que les persécutions et l'opposition cessent, mais qu'ils aient toute hardiesse pour annoncer la parole et qu'ils se fassent des miracles pour la gloire de son nom. L'Église est le lieu où ce nom a tout son prix. En conséquence, il y eut une manifestation exceptionnelle de la puissance de l'Esprit. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit, Le lieu où ils sont assemblés est ébranlé, et la prière par laquelle ils demandaient pour eux une hardiesse particulière est aussitôt exaucée. Plus encore, il leur est accordé ce qu'ils n'ont pas demandé. Ils sont tous un cœur et une âme. Cela découle évidemment de ce que le seul et même esprit remplissait chacun d'entre eux. Si aujourd'hui tous les croyants étaient remplis de l'esprit, ils seraient caractérisés par l'unité de cœur et d'esprit. C'est la seule manière de parvenir à une telle unité. Le trait suivant, mentionné au verset 33, découle de cela. Il y a une grande puissance dans le témoignage que les apôtres rendent devant le monde. L'Église elle-même ne prêche pas, mais, pleine de grâce et de puissance, elle soutient ceux qui annoncent la parole. Alors, comme maintenant, la prédication est le fait de ceux que Dieu a appelés à ce service. Mais la puissance avec laquelle ils s'en acquittent dépend dans une large mesure de l'état qui caractérise l'Église entière. Les derniers versets montrent que si un témoignage puissant est rendu à l'extérieur, à l'intérieur se trouvent l'amour et la sollicitude. La vie communautaire chrétienne relevée à la fin du chapitre 2 continue. La distribution se faisait à chacun, selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Il était pourvu non pas au désir, mais au besoin de chacun, de sorte que personne ne manquait de rien. Plus tard, Paul a pu dire « Je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. » Philippiens 4, verset 12. Mais les saints à Jérusalem, à cette époque, n'ont pas fait ces expériences. Le fait d'y avoir échappé, alors que Paul a dû les connaître, a-t-il été un avantage pour eux? La question reste ouverte, bien que nous inclinions à penser qu'ils ont plutôt subi une perte. Quoi qu'il en soit, le geste de Barnabas est très beau, et l'amour et la sollicitude manifestés dans l'Église d'alors devraient exister aujourd'hui, même si la manière exacte de les exprimer peut varier.